Bonjour. Pour les 10 ans du réseau SNCF Mixité, au cœur de la mixité vous offre des témoignages personnels et singuliers sur la question de l'égalité femmes-hommes. 10 portraits, 10 histoires, 10 récits illustrant la grande variété des approches de la mixité. Engagement, inclusion, solidarité, confiance, audace et pour chacun, bien d'autres choses encore. Au cœur de la mixité, un podcast de La Belle Voix pour SNCF Mixité. Dans cet épisode, nous écoutons Mickaël qui est en charge de la responsabilité sociétale des entreprises du groupe SNCF. Il nous raconte à travers son parcours et ses convictions en quoi la mixité contribue à ce que chacun et chacune trouve sa place et pourquoi il est important de créer un environnement qui favorise la mixité de tous les métiers. À la réalisation de cet épisode, Annabelle Cordier-Chouin. Bonne écoute!
Bonjour, je suis Mickaël Lemarchand, je suis le directeur de l'engagement social, territorial et environnemental de la SNCF, c'est-à-dire le directeur de la RSE du groupe SNCF, et le directeur du projet d'entreprise qui s'appelle Tous SNCF. Et il se trouve que dans le cadre de ces fonctions, je suis aussi celui qui supervise le réseau SNCF Mixité, ainsi que la fondation SNCF. La mixité pour moi, c'est littéralement le mélange d'hommes et de femmes dans un groupe donné, que ce soit un grand groupe ou un petit groupe ou au niveau de la société en général. Donc ça, c'est littéralement ce qu'est la mixité. C'est évidemment, au-delà de ce que c'est factuellement, c'est un combat, c'est une certaine idée de la société qui pour moi dépasse même le sujet des hommes et des femmes, puisque nous avons besoin de partager les points de vue et nous avons besoin surtout de donner sa place à chacun et à chacune. Et aujourd'hui, quand il n'y a pas de mixité, c'est-à-dire quand les hommes ou les femmes sont en minorité évidente, ils en souffrent d'une manière ou d'une autre et ils ne peuvent pas s'exprimer pleinement. Et ça, cette idée est tout simplement insupportable. La mixité résonne à la fois dans ma vie professionnelle et personnelle. Je vais commencer par le professionnel parce que, étant en charge de la responsabilité sociale d'entreprise de la SNCF, de la RSE, la mixité en fait pleinement partie. Donc ça, c'est le point professionnel. Et ça résonne avec ma vie personnelle parce que je suis marié, ma femme travaille en entreprise et je vois ce qu'une femme peut vivre au quotidien sans que j'en ai même conscience si on n'en parlait pas, si je n'étais pas sensibilisé à titre professionnel. Avec mes yeux d'homme, je ne verrais absolument pas ce qu'elle vit et si elle ne m'en parlait pas, je ne pourrais pas être au courant de ce que ça représente au quotidien, d'empêchement, d'entrave, de souffrance. Et on ne peut pas imaginer ça si on n'est pas en prise directe. Alors, hélas, pour être en prise directe, il faut le vivre. Et ce que je vois, à la fois à titre professionnel et personnel, c'est que les bonnes volontés en matière de mixité ne suffisent pas. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un d'ouvert, de sensibilisé au sujet, que je peux imaginer ce que ça veut dire au quotidien. Le sujet de la mixité ne va pas de soi et est sujet à des débats. Et des débats qui peuvent être argumentés et les différents points de vue s'entendent. Pour la SNCF, ce débat est maintenant tranché et assumé puisque la volonté de mixité et de lutte en faveur de l'égalité femmes-hommes dans toutes ses composantes est inscrite dans la stratégie RSE du groupe SNCF. Et cette stratégie est validée par le conseil d'administration. La féminisation de nos comités exécutifs fait partie de cette politique-là, de cette stratégie. Mais fort heureusement, c'est presque déjà derrière nous, parce que nos comités exécutifs sont à 50-50 ou à 40-60, puisque la mixité, on se donne une bande passante de 40-60 dans les deux sens. Donc, mais c'est très bien, mais le combat ne s'arrête pas là, parce que le sujet, c'est de réussir à féminiser et d'atteindre une forme de mixité dans tous les métiers ou dans tous les collectifs de travail. Et dans les deux sens, puisqu'il y a des métiers qui sont très fortement féminisés et avec peu d'hommes, et d'autres, notamment nos métiers de production, qui sont ceux qui embauchent le plus, puisque c'est là que nous sommes en tension. Et donc, de facto, si on ne prête pas attention à la féminisation des embauches, on va se retrouver avec encore plus d'hommes mécaniquement embauchés et donc on s'éloignerait de notre objectif. Donc il faut y prêter attention. Les stratégies en faveur de la mixité et de l'égalité femmes-hommes généralement rencontrent un premier argument contraire qui est « Ah, mais vous mettez en place des quotas ». Ça, c'est généralement le premier niveau de réaction des gens qui sont contre et qui peuvent être sincères en disant ça. Sauf que le sujet, c'est pas la question de quotas, la question, c'est la vision que l'on a, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il prime, et ce qui prime, c'est que chacun et chacune ait sa place et puisse s'exprimer, et que personne ne se sente exclu ou mal à l'aise, et donc s'exclure in fine d'un collectif, et donc d'un métier, peut-être d'une vocation de vie, au motif qu'il n'y aurait pas de mixité. Cette idée est insupportable. Et donc, l'objectif qui prime sur tout, c'est d'arriver à cet état de fait. Et donc oui, on force les choses, mais forcer les choses ne veut pas dire, et là c'est très important, moi j'ai une conviction là-dessus, ne veut pas dire qu'on prend des femmes, on recrute des femmes au motif que c'est des femmes et qu'elles ne seraient pas compétentes. Ça voudrait dire, et ça c'est vraiment l'argument que je rétorque à tous ceux qui disent ça, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de femmes sur le marché qui sont et femmes et compétentes. En fait, cet argument qui est rétorqué un peu facilement est une insulte même aux femmes, ou aux hommes si on parle d'une minorité qui serait les hommes. C'est une insulte en fait. C'est un argument qui ne tient pas la route deux secondes. Le sujet, c'est pas de prendre des femmes parce que c'est femmes, c'est de se donner les possibilités d'aller chercher les compétences qui sont portées par des femmes. En revanche, après, la question, la seule question qui se pose, c'est quand, à candidature égale, comme on dit, est-ce que, et il y a une shortlist, il y a deux candidats finalistes pour un même poste, comment on décide? Parce que d'ailleurs, ça c'est très subjectif. Comment on décide? Ben, on décide. Et si on n'arrive pas à décider du tout, alors on peut décider en choisissant la femme plutôt que l'homme, si c'est un enjeu en soi. L'argument un peu facile qui est « Ah, vous faites des quotas, vous prenez des femmes », ne tient pas. Ça, c'est vu de l'entreprise. Maintenant, la question, c'est quand même comment c'est vécu par la femme qui est recrutée et dont certains collègues pourraient dire « Ah, t'as été recrutée parce que t'es une femme ». Ça arrive. Et là, ça arrive encore. Là-dessus, il y a deux choses pour lutter contre ça. D'abord, il faut être intraitable sur ces remarques qui ont l'air de rien et qui détruisent. Un mot peut faire beaucoup de mal et on s'en rend pas compte. Ça peut détruire la confiance d'une personne. Ça peut vraiment lui faire durablement du mal. Ça, c'est inacceptable. Et ça se travaille, ça aussi. C'est-à-dire que là, c'est de la sensibilisation, d'en faire un sujet de discussion dans les collectifs du travail. Il faut en parler. Parce qu'en fait, quand on commence à parler, on règle généralement les problèmes. On apporte un autre point de vue. Et puis de l'autre côté, il faut être au soutien des femmes qui sont toutes courageuses et qui, encore une fois, peuvent souffrir du collectif dans lequel qu'elles sont, dans des petites phrases. Et là, c'est très important d'avoir notamment les rôles modèles. C'est très important de montrer qu'il y a un collectif, qu'il y a un réseau, qu'on peut en parler pour ne pas vivre seul avec ses problèmes dans son équipe ou dans son collectif de travail. En jumelant tous ces efforts-là, on casse une certaine culture et on montre que c'est normal de s'assumer et qu'il y a de la place pour chacun. Et je crois qu'on y arrive progressivement, mais la lutte doit être menée et il ne faut surtout pas baisser la garde. Une anecdote qui me vient spontanément à l'esprit en matière de mixité, ça va peut-être vous surprendre, mais je repense à un moment que j'ai vécu lorsque j'étais chez Keolis, une grande filiale du groupe SNCF, et je m'étais inscrit chez Keolis à la chorale interne de l'entreprise. J'avais envie de chanter, ça m'intéressait, et je me pointe un jeudi midi de mémoire pour ma première répétition, première prise de contact avec cette chorale. Je vais dans une salle de réunion de Keolis, et j'arrive et je suis en présence d'à peu près 25 femmes et j'étais le seul homme. Ça peut paraître bête, mais c'est la première fois où j'ai expérimenté le fait d'être un homme. Je me suis senti homme, et a fortiori homme en minorité, dans un collectif de femmes. Voilà, il a fallu attendre 35 ans pour que je fasse cette première expérience d'un homme qui se sent homme parce qu'en fait, il est entouré de 25 femmes dans une chorale. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ce que vivent les femmes dans à peu près toutes les situations professionnelles. Et l'idée ne m'avait pas traversé l'esprit, ou si elle m'avait traversé l'esprit, parce que j'en ai pas souvenir, c'était purement intellectuel. Mais là, pour la première fois, je le vivais en chair et en os. Et j'ai vu que tant qu'on ne vit pas les choses, ben, en fait, on ne sait pas trop de quoi on parle, quoi. Et j'ai été très bien accueilli par cette chorale. Et pour tout dire, il y a ensuite deux hommes qui ont rejoint la chorale. Et ça permettait, là encore une fois, d'avoir des voix différentes, des timbres différents, et donc d'avoir beaucoup plus de largeur de gamme, et la chorale était beaucoup plus riche dans sa capacité de chant et d'expression dans le répertoire que s'il y avait eu que des femmes. Et on aurait eu la même chose s'il y avait eu que des hommes. Donc si preuve était que la mixité est une richesse, eh bien moi je l'ai vécu avec cette chorale, et je salue d'ailleurs tous mes anciens collègues de Keolis qui chantent encore dans la chorale. Si je pense à une réussite en faveur de la mixité, au-delà de tout le travail qu'on fait avec SNCF Mixité, le nouveau nom du réseau d'entreprises SNCF au féminin, je pense à, là encore une fois, à une expérience que j'ai vécue et que j'ai imposée parce que c'était important pour moi. C'est lorsque j'ai eu, au milieu des années 2000, c'était en 2005, j'ai eu la possibilité de devenir chef de cabinet du directeur général du groupe SNCF. Et à l'époque, j'allais devenir papa pour la première fois. Et je me suis dit que cette proposition, c'était une très belle proposition professionnelle, mais que j'allais la refuser, et sans état d'âme, pour dire vrai, parce que je pensais à l'époque que la fonction de chef de cabinet serait incompatible avec l'idée que je me faisais de ma vie de famille et de futur papa. Et donc j'ai refusé ce poste, cette proposition. Et puis en fait, quelques semaines plus tard, on m'a refait cette proposition de façon un peu plus insistante et ouverte en disant « Bah alors, tu as peur de prendre ce poste, quel est le problème ?» Et j'avais dit « Ben moi, le problème, c'est que je pense que c'est pas compatible et je veux donner le bain à mon fils tous les soirs. » Et le DG de l'époque me dit « Mais à quelle heure tu donnes le bain à ton fils ?» Alors mon fils n'était pas encore né, j'avais aucune idée de l'heure à laquelle j'allais donner le bain, mais je lui ai dit, un peu bravache, un peu au culot, je lui ai dit bah, « 7h30, 7h30 le soir, je donne le bain à mon fils, peut-être 8h au plus tard, mais alors vraiment au plus tard. » Et il m'a dit bah, « Banco, tu donneras le bain à ton fils tous les soirs, je te promets que tu rateras jamais le bain de ton fils. » Et on a topé, et je suis devenu chef de cabinet. Et j'ai tenu, il a tenu sa promesse aussi, et on s'est organisé. Moi, je travaillais très tôt le matin, mais j'ai organisé ça. Et un jour, le président et lui étaient dans le couloir, et le numéro 2 de l'entreprise a dit au numéro 1 « Ah, mais Michael va bientôt partir, puisqu'il va donner le bain à son fils. » Et ce jour-là, je me suis dit que ça y est, c'était gagné, parce que je n'avais pas à me justifier de partir. C'était ancré dans son esprit que ça faisait partie... Ça faisait partie de mon rythme et que je pouvais très bien faire mon travail comme ça. Alors je dis ça, je suis conscient de la limite, c'est-à-dire que j'ai réussi à imposer ça parce que c'était important pour moi. Je mesure que j'étais en confiance avec le directeur général et que c'est pas facile, mine de rien, d'imposer ça, qu'on soit une femme ou un homme. Et je mesure aussi à quel point beaucoup n'ont pas la compréhension d'un chef qui permet ça. Ça n'empêche pas de l'imposer ou de le poser comme condition, mais je mesure que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai joué ma part, j'ai assumé d'être un papa qui voulait donner le bain à son fils. Et j'ai pas demandé d'augmentation, j'ai juste dit que c'était une condition importante pour moi. Mais je vois aujourd'hui, 17 ans plus tard, que le combat continue puisque le congé paternité a été augmenté. Il est plus attractif et il est sain pour toute la famille. Et pourtant, on voit que la prise du congé paternité est en recul. Et donc, ça montre qu'il faut travailler aux obstacles à la prise du congé paternité, parce qu'on voit bien que ce n'est pas encore entré dans les mœurs très largement et que ça reste un terrain de combat. Je pense que les entreprises ont énormément à faire en matière de mixité. On y passe du temps, on y passe du temps pour gagner sa vie, mais on y passe du temps quand on a la chance de ne pas juste gagner sa vie, mais de faire un boulot qui nous plaît, on se réalise. Donc c'est un lieu important dans la vie tout court. Si, parce qu'il y a des biais de genre, parce que la mixité nous empêche ou nous prive ou nous auto-exclut d'un métier, d'une profession, eh bien, on s'appauvrit. Donc les entreprises doivent montrer que c'est possible, qu'il y a de la place pour tout le monde, et donc pour les femmes et pour les hommes, dans tous les métiers, au-delà des préjugés et des biais présupposés. Et les entreprises ont un rôle à jouer avec l'enseignement, parce que les choix d'orientation, on le voit maintenant, les études le montrent, se font dès le début du collège. Les jeunes filles s'auto-excluent déjà par reproduction de schémas et biais de genre dès le début du collège. Ça commence là, et donc il faut travailler avec les lycées et avec les collèges pour pouvoir lutter contre cela. Et ça, c'est un travail de long terme. On voit bien que on en verra les effets dans 5, 10 ans, 15 ans. SNCF Mixité a eu 10 ans en 2022. Ce que je peux souhaiter de meilleur à SNCF Mixité, c'est justement d'exister encore dans 10 ans, d'être encore plus grand, d'avoir réussi à rééquilibrer un peu plus parmi les 11 000 membres du réseau l'équilibre homme-femme, puisque aujourd'hui nous avons 78% de femmes, 22% d'hommes, et que ça soit l'affaire de tous, parce que la mixité, ce n'est pas que l'affaire des femmes. Mais je suis très confiant parce qu'on est bien parti.
C'était le dernier portrait de la série Au cœur de la mixité, un podcast de La Belle Voix, produit avec le soutien de SNCF Mixité. Merci à Mickaël pour son témoignage et retrouvez tous nos épisodes sur les plateformes d'écoute ou sur le site SNCF Mixité. À bientôt.